VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Idrissa Seydoudia et Morgan Guiriec, bienvenue à l'édition du vendredi 14 août 2015. À la une ce soir.
François Bozizé ne pourra pas briguer la présidence d'octobre prochain en RCA, avertissement du gouvernement de transition.
Arrestation au Mali d'une dizaine de personnes après l'attaque d'une gare routière de Bamako.
John Kerry à La Havane pour la réouverture officielle et historique de l'ambassade américaine à Cuba.
Ne manquez pas nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
En Centrafrique, la candidature de François Bozizé pour la présidentielle d'octobre prochain est dénoncée par les autorités intérimaires. Pour le porte-parole du gouvernement, les sanctions onusiennes empêchent l'ex-président de se présenter à l'élection, Eddy Issango.
La première difficulté, c'est que l'ex-président Bozizé ne pourra pas se déplacer car les sanctions onusiennes l'en empêchent, a déclaré Dominique Saïd Pangouidji à la radio privée Radio Ndekeluka. Les mandats d'arrêt international à l'encontre de M. Bozizé constituent un autre obstacle. Il pourrait, selon les porte-paroles, être exécuté dès que l'ancien président se présentera à la frontière ou à l'aéroport. Les partis de M. Bozizé estiment qu'on veut simplement l'empêcher d'être candidat. Les premiers tours de la présidentielle est prévu le 18 octobre et il y a déjà une dizaine de candidats déclarés. Après des affrontements meurtriers, la Centrafrique est tenue à bout de bras par la communauté internationale. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU vient de nommer Parfait Onanga Anyanga, un Gabonais à la tête de la MINUSCA, après la démission du général Babacar Gueye suite au scandale des viols présumés commis par des casques bleus.
Au Burundi, le nouveau Sénat a désigné son président, un membre du parti au pouvoir, CNDD-FDD, et président de la Fédération de football du Burundi. D'après les médias locaux cités par l'AFP, Révérien Dikuriyo a été élu président par les sénateurs réunis en session plénière.
Lutte contre Boko Haram, le Cameroun mobilisera 2450 militaires pour participer à la force d'intervention conjointe et multinationale qui doit compter au total 8700 hommes. C'est ce qu'annonce le ministre de la Défense. Le président Paul Biya a également promu au grade de général 5 colonels de l'armée engagés dans la lutte contre Boko Haram. Un décret présidentiel a été lu à la radio d'État ce vendredi.
Au Mali, arrestation d'une dizaine de personnes après l'attaque d'une gare routière à Bamako. Les précisions de notre correspondant Kassim Traoré.
Les auteurs de l'attaque d'une gare routière de Bamako sont suspectés d'être des terroristes selon le gouvernement malien, car la manière par laquelle ils se sont introduits dans la gare routière de Sogoningo et ont ouvert le feu sur le poste de police ressemble au mode opératoire des terroristes. Heureusement que leurs coups de feu n'ont fait que deux blessés, dont un policier et un civil non-voyant. Pour les enquêteurs, le travail qu'ils ont fait au préalable n'a pas été facile, mais ça leur a permis d'arrêter une dizaine de personnes. Les informations préliminaires recueillis seront transmises à la gendarmerie nationale afin de poursuivre le reste de l'enquête. Au stade de l'enquête, aucun auteur de l'acte du 12 août n'a été arrêté pour le moment. Le gouvernement du Mali condamne cet acte lâche qui, selon lui, vise à saboter le processus de paix et à semer la psychose au sein des braves populations du Mali. Le gouvernement malien invite l'ensemble des Maliens et des Maliennes et des autres étrangers à garder leur sang-froid et leur rassure que toutes les mesures appropriées ont été prises pour mettre la main sur ces criminels. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Épidémie de rougeole dans la province du Katanga, en République démocratique du Congo, la maladie a fait près de 320 morts depuis janvier et contaminé plus de 20 000 personnes, indiquent les Nations Unies.
Conflit au Soudan du Sud, le gouvernement suspend sa participation au pourparlers de paix en cours à Addis Abeba et le président Salva Kiir a annulé son voyage vers la capitale éthiopienne. Décision prise à l'issue d'une réunion des gouverneurs des 10 États du pays avec le président Salva Kiir. Les autorités disent attendre que les deux factions rebelles trouvent une solution à leurs différends. Il vaut mieux retarder la signature d'un accord, mais être sûr d'éviter de revenir à la guerre, estime Djouba.
Sirte en état de guerre dans le nord de la Libye, de violents combats entre des hommes armés et des djihadistes de l'organisation État islamique ont fait des dizaines de morts depuis 4 jours. Mardi, le gouvernement de Tripoli a annoncé le lancement d'une opération pour libérer Sirte. Rappelons que la Libye est profondément divisée. Deux gouvernements se disputent le pouvoir, l'un à Tripoli, sous le contrôle de la coalition de milices Fajr Libya, l'autre à Tobrouk, reconnue par la communauté internationale.
Et puis, cette nouvelle insolite, Idrissa, un Éthiopien, a été découvert à l'aéroport de Stockholm dans la soute d'un avion en provenance d'Addis Abeba. Le jeune homme qui a l'intention d'obtenir l'asile en Suède est en bonne santé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est rendu aujourd'hui à La Havane pour une visite historique de quelques jours, de quelques heures à Cuba. Il a assisté notamment à la levée du drapeau étoilé devant l'ambassade des États-Unis. C'est tout un symbole, Jacques Aristide.
Ladies and gentlemen, please rise for the raising of the flag and the national anthem of the United States.
La bannière des États-Unis flotte à nouveau depuis ce vendredi dans la capitale cubaine, 54 ans après avoir été abaissée. Et pour marquer un peu plus l'histoire, ce sont les trois Marines, Jim, Tracy, Mike East et Larry Morris, qui l'avaient descendu en janvier 1961, qui l'ont remis aux jeunes Marines pour le hisser. Pour le chef de la diplomatie américaine, c'est un moment mémorable entre les deux anciens adversaires de la guerre froide.
Je remercie le pape Francis et le Vatican pour nous avoir aidés à ouvrir un nouveau chapitre dans nos relations. J'applaudis le président Obama et le président Castro pour avoir eu le courage de nous réconcilier malgré une féroce opposition.
John Kerry a également réaffirmé que le gouvernement de Barack Obama était fortement en faveur de la levée de l'embargo imposé à Cuba depuis 1962. La brève visite de John Kerry vise également à aborder les sujets qui fâchent, comme la protection des droits de l'homme et des dissidents politiques, des sujets que les opposants à la détente accusent l'administration Obama d'avoir sacrifié sur l'autel de la réconciliation américano-cubaine.
En Chine, les autorités continuent d'enquêter sur les causes des deux explosions de mercredi soir dans la zone portuaire de Tianjin. Et des craintes persistent sur la présence de produits chimiques dangereux près du site où l'on observe toujours plusieurs petits incendies. Le bilan officiel du sinistre est de 56 morts, dont 21 pompiers. Plus de 700 personnes sont toujours hospitalisées, dont 33 dans un état grave. De nombreuses personnes sont toujours portées et disparu.
Les États-Unis enquêtent sur les informations d'officiels allemands selon lesquelles le groupe État islamique a usé d'armes chimiques cette semaine contre des combattants kurdes en Irak. Selon le ministère allemand de la Défense qui entraîne les Kurdes, quelques 60 combattants Peshmerga ont subi mercredi lors d'une bataille avec les djihadistes des blessures similaires à celles provoquées par ce genre d'armes. Selon un officiel américain qui a requis l'anonymat et que cite le Wall Street Journal, il pourrait bien s'agir de gaz moutarde dont serait vraisemblablement emparé le groupe État islamique en Syrie.
Le commissaire européen à l'immigration a déclaré que le monde affrontait la pire crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale en Europe. Selon lui, plusieurs pays sont débordés par les flux de demandeurs d'asile qu'il faudra accueillir de façon décente et civilisée. Nicolas Pinault, en Grèce, le gouvernement veut accélérer l'enregistrement administratif de milliers de réfugiés syriens.
Oui, un ferry dépêché par le gouvernement grec est arrivé sur l'île de Kos. Dans cette petite île, les habitants ont fait état de nombreux incidents entre policiers et migrants qui étaient quelque 7000 sur l'île au début de la semaine en raison de l'engorgement des services de l'immigration. Cet exemple grec illustre la situation dans toute l'Europe. Le monde affronte la pire crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'affirme Dimitris Avramopoulos, le commissaire européen à l'immigration. La Grèce, dont M. Avramopoulos est originaire, a accueilli 50 000 demandeurs d'asile en juillet, contre 6 000 en juillet 2014, a rappelé le commissaire. Ce dernier a l'intention de se rendre prochainement en Turquie, d'où partent les migrants qui tentent chaque jour d'atteindre par centaines les côtes des îles grecques de la mer Égée. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 250 000 migrants ont cherché à rejoindre l'Europe par la mer depuis le début de l'année.
La Russie n'est pas attachée à la personne du président syrien Bachar al-Assad. Elle se préoccupe beaucoup plus de la préservation de l'État syrien et de son intégrité territoriale. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Moscou le chef de la coalition nationale syrienne, Khaled Khoja, au lendemain de ses négociations avec des responsables de la diplomatie russe, dont Sergueï Lavrov. Nous avons toujours dit que nous ne soutenons pas Bachar al-Assad personnellement, mais nous soutenons le président légitimement élu de Syrie, a réagi la porte-parole de la diplomatie russe interrogée par l'AFP.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute économique ce soir avec Jacques Aristide.
Le Cameroun, la plus grande économie de l'Afrique centrale, a révisé à la hausse sa prévision de croissance du PIB en 2015 à 6,4% contre 5,8% auparavant. Le ministère camerounais des Finances explique ses meilleures perspectives par l'augmentation des recettes au premier trimestre de l'année en cours. Le chiffre est bien au-dessus du taux des 5% prévu par le Fonds monétaire international. La Nigerian National Petroleum Corporation, dans le collimateur de la justice. Le géant public nigérian du pétrole, gangrené par la corruption, va subir un audit juridique. C'est ce qu'a annoncé l'avocat récemment nommé à la tête de la compagnie pétrolière par le chef de l'État pour faire le ménage. Emmanuel Katikwu, ancien vice-président exécutif d'ExxonMobil Africa, a déclaré qu'aucun employé ne sera à l'abri. Mekele est la première ville d'Éthiopie à appliquer avec rigueur une loi bannissant le tabac des lieux publics, à l'extérieur comme à l'extérieur. Les contrevenants s'exposent à une amende de 1000 birres éthiopiens, soit $50 américains, une petite fortune en Éthiopie où les salaires dépassent rarement les $100 par mois.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jacques Aristide.
Maintenant, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir, Idrissa.
La Première Ligue en Angleterre, deuxième journée du championnat.
Qui pour succéder à Chelsea, le premier choc aura lieu dimanche à l'Etihad Stadium lors de la deuxième journée de la Première Ligue entre Chelsea et son dauphin de la saison dernière, Manchester City, soit les deux derniers vainqueurs du titre.
Le Barça a un rythme d'enfer.
Rude début de saison pour le FC Barcelone. Après une folle Super Coupe d'Europe remportée devant Séville, le club catalan doit enchaîner trois chocs en une semaine contre l'Athletic Bilbao, à commencer par la Super Coupe d'Espagne aller ce soir à San Mamés. Mais le calendrier du début de saison est compliqué pour le Barça, avec ce redoutable triptyque athlétique. C'est contre les Lions de San Mamés que l'équipe Blaugrana jouera ce vendredi soir. Puis lundi, les deux manches de la Supercoupe d'Espagne avant un troisième volet. Et là, ce sera pour la première journée de la Liga le 23 août prochain.
Transfert.
L'attaquant hispano-malien Adama Traoré, formé au FC Barcelone, va rejoindre Aston Villa pour un transfert évalué à 10 millions d'euros. Adama Traoré Diarra est un attaquant prometteur de 19 ans. D'origine malienne, il est né près de Barcelone où il a effectué toute sa formation. Cet international espagnol des moins de 19 ans avait fait ses débuts avec l'équipe première du Barça en novembre 2013 lors d'un match de championnat d'Espagne contre Grenade, victoire 4-0. Il n'a néanmoins pas percé par la suite avec le groupe professionnel. Parlons aussi de l'attaquant malien du tout-puissant Mazembe, Cheban Traoré. Il a quitté les Corbeaux pour s'engager en faveur de la renaissance sportive de Berkane. Après 5 saisons à Lubumbashi, l'attaquant de 24 ans part pour un nouveau challenge et un contrat de 3 ans.
NBA, on parle gros sous.
James Harden, la star des Houston Rockets, évoluera désormais avec des Adidas aux pieds, chippé au rival Nike, moyennant un gros pactole. Le barbu le plus célèbre du basketball américain illustre les efforts de l'équipementier allemand pour redevenir branché aux États-Unis. Le deuxième meilleur joueur de la NBA la saison dernière s'est assuré un futur confortable. Il a signé environ un contrat de 200 millions de dollars avec la marque aux trois bandes, selon la chaîne américaine ESPN, sacré pactole.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia et Morgane Guiriac en votre compagnie, place au dossier du jour.
Pour revenir sur la crise politique en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a dissous le gouvernement de Domingos Simoes Pereira. Le président Vaz a évoqué une crise de confiance à l'égard de son premier ministre et a cité des points de blocage dans le fonctionnement des institutions. Les deux hommes issus du même parti ne s'entendent pas depuis plusieurs mois sur la manière de diriger le pays. Quelles conséquences pour le pays et la région? L'analyse de Vincent Fouchère, chercheur pour l'ONG International Crisis Group.
Il y a deux manières de voir la chose. On peut se dire, au fond, on est dans un processus institutionnel. Le président a le droit de congédier son premier ministre, c'est dans la Constitution. Il le fait et on a une procédure. Il faut que le président contacte le principal parti à l'Assemblée nationale pour lui demander de proposer un autre Premier ministre. Le nouveau président et le nouveau Premier ministre, donc, qui sont issus des élections de 2014, représentaient un véritable espoir de changement. Et au fond, de voir des manœuvres politiques comme ça revenir, c'est un assez mauvais signal, au fond. Et c'est un signal qui, entre autres, est susceptible de décourager les partenaires internationaux. L'inquiétude, elle est liée au fait qu'on est dans un pays fragile qui a du mal à attirer le soutien international et qui a besoin des soutiens internationaux. Donc, les conséquences en termes de mobilisation des appuis internationaux de cette affaire peuvent être problématiques pour le pays.
Quels seront les pouvoirs de ce Premier ministre si le président a toujours la main comme ça sur le gouvernement? Où sont les limites pour l'un et pour l'autre?
Alors, la constitution bissau-guinéenne est une constitution mixte, inspirée entre autres par la constitution portugaise. Et en fait, le problème, c'est précisément qu'on n'est pas dans un franc présidentialisme comme dans beaucoup de constitutions africaines. Et au fond, si le chef de l'État a des pouvoirs un peu exceptionnels comme la dissolution et puis la désignation du Premier ministre, le Premier ministre et l'Assemblée nationale ont quand même aussi une force. C'est le Premier ministre qui contrôle l'État, qui contrôle les nominations de la plupart du personnel politico-administratif. Et donc, on a un système un petit peu mixte. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que ces relations complexes entre le président et le Premier ministre provoquent des problèmes en Guinée-Bissau.
Alors, quelles conséquences directes pour le pays et pour la sous-région?
Le Portugal a d'ailleurs récemment dit que cette instabilité-là pouvait mettre en cause la mise à disposition de l'assistance internationale. Donc, ça peut avoir cet impact-là. Et l'autre aspect, c'est que ça donne un assez mauvais climat. Il y a beaucoup de tensions, de critiques, d'accusations assez sévères qui sont échangées entre les deux camps, de corruption, de malversation. Tout ça, c'est pas une très très bonne ambiance. On aurait aimé pour un régime sorti d'un coup d'État, un régime de transition qui vient mettre terme à un coup d'État, un régime post-transition. On aurait bien aimé quelque chose d'un petit peu plus tranquille et apaisé. C'est pas le cas. Pour la sous-région, la Guinée-Bissau, c'est quand même un pays qui est très enclavé, qui a en fait un poids économique très faible dans la sous-région, une petite population, pas très très fortement migrante non plus. On voit pas trop de conséquences.
Dans cet échiquier politique où les cartes sont redistribuées après cette dissolution, l'armée se positionne comment?
Récemment d'ailleurs, il y a eu une déclaration du chef d'état-major disant que lui, le politique, c'était pas du tout son affaire et que l'armée ne faisait qu'observer la situation.
C'était Vincent Fouchère, chercheur pour l'ONG International Crisis Group. Il était joint à Paris par Tatiana Mosso.
Le Parlement mauritanien a adopté hier une nouvelle loi durcissant la répression de l'esclavage. Les peines pour de telles pratiques passent à 20 ans de prison contre 5 à 10 ans auparavant. Dans le même temps, 3 militants anti-esclavagistes sont toujours en prison et doivent être jugés en appel le 20 août à Alègue. Pour une réaction, Idriss Fall a joint Amadou Tidjane Diop, vice-président du mouvement abolitionniste à Nouakchott.
On se réjouit, nous pensons qu'il s'agit encore d'une évolution. Mais le problème, ce n'est pas de voter une loi ou de la faire passer à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais c'est l'application. Puisqu'avant cette loi-là, il existait une loi moins efficace que celle-là en 2007, mais le problème qui se posait, c'était au niveau de l'applicabilité, de la mise en œuvre de la loi. Donc, mais on se résume jusque-là. La loi a été rendue plus performante, mais son application, c'est à ce niveau-là que se situe le problème. Là, on est un peu sceptique.
Et pourtant, le gouvernement a toujours nié l'existence de l'esclavage en Mauritanie.
L'important, ce n'est pas l'avis du gouvernement. L'esclave, c'est ce qu'on observe dans les faits, dans les pratiques, dans la réalité. Quand il y a controverse, quand il y a divergence de point de vue, ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe au niveau de la pratique, au niveau de la réalité. Le gouvernement a toujours violé la loi, mis en prison des hommes qui n'ont rien fait. Mais quand vous allez l'interpeller, ils vont chercher des arguments pour justifier leur acte, ce qui a été toujours le cas des dictateurs des pays qui violent les droits.
Paradoxalement, trois militants anti-esclavagistes sont toujours en prison, notamment Biram Ould Abeid.
Oui. Et le procès pour appel est prévu pour l'an d'arrivée, je vous l'apprends d'ailleurs. La justice est en train de se préparer pour les rejuger en appel. Déplorons leur arrestation puisqu'ils ont été emprisonnés pour des raisons politiques. Ce n'est pas par rapport à la caravane qui a été organisée. La Cour suprême a dessaisi la Cour d'appel Nassot pour transférer le dossier à la Cour d'appel Barek qui est contrainte. Ils sont détenus dans le centre pénitentiaire qui ne doit pas être le leur. Puisque dans le fonctionnement du centre pénitentiaire, il est dit que quelqu'un en détention préventive, ne peut pas garder dans un centre pénitentiaire qui ne dépend pas de la cour d'appel compétente pour le juger. Et il est prévu qu'une cour d'appel qui n'est pas compétente, les juges, et c'est pourquoi ils ne vont pas se présenter à ce jugement-là. Si on les force, ils vont être là-bas, mais ils ne vont pas se prononcer, ils ne vont pas répondre au juge. C'est ça ce qui est prévu.
Amadou Tidjane Diop, vice-président du mouvement abolitionniste à Nouakchott.
Djamena au Tchad, réaction mitigée sur le port obligatoire du casque imposé aux motocyclistes par les autorités. Pour certains, l'application stricte de cette décision pourrait aider les adeptes du groupe État islamique Boko Haram à s'infiltrer plus facilement dans la capitale. Reportage d'André Kodmanjingar.
La question du port de casque est une question de sécurité routière. Les traumatisés crâniens occupaient à un moment près de 70% des lits des urgences.
C'est en ce terme que le ministre de la Santé publique, Dr Ngarirari Madjita, a engagé son collègue de la sécurité publique en mars dernier de rendre obligatoire le port de casque aux motocyclistes de la ville de N'Djamena. Une décision qui a été prise en 2012 mais qui semble tomber en désuétude. Quelques mois seulement après son application, cette décision a été mise en veilleuse compte tenu des attentats terroristes qui ont frappé la capitale en juin 2015. Mais deux mois environ après ces attentats, la police revient à la charge. Elle verbalise systématiquement tout motocycliste qui ne se conforme pas à cette décision. Quelques motocyclistes saluent cette décision, mais déplorent la brutalité avec laquelle la police s'en prend aux récalcitrants.
C'est une décision qui va dans l'intérêt de tout le monde, sauf que c'est une opportunité pour la police aussi d'arnaquer les gens.
La pluie m'a frappé, le casque a été mouillé. Je ne pouvais pas le porter. Et arrivé là, ils m'ont saisi, ils m'ont demandé, je leur ai expliqué. Ils ont arraché la moto. J'ai beau expliquer, ils n'ont pas compris. Ils ont dit que si je continue, ils vont me noter. Et il a fallu l'intervention des gens pour me retirer. Là, j'ai perdu toute la journée. C'est un gagné pour l'État. C'est un ancien de mon État.
Le casque tel là, ça nous protège. Nous-mêmes, on est conscients de ça. Mais des fois, la police exagère.
Ils sont là à nous arrêter, nous les femmes là. Ils prennent votre moto, ils disent que ce qu'il y en a même, tu donnes. 1000 francs, 500 même, ils donnent, c'est lamentable. Ils sont de fonctionnaires de l'État.
Le ministre de l'administration du territoire et de la sécurité publique, Abdrahim Birem Hamek, se dit conscient et déclare que cette pratique malsaine sera réglée dans les tout prochains jours.
Bientôt, on va afficher dans leur chemise le numéro de matricule. Et vous avez le droit de relever son numéro de matricule. S'il fait quelque chose d'anormal en dehors de la loi, vous pouvez signaler, il y a un numéro vert, vous pouvez appeler, qui est le 2020, pour que le responsable sur place, il va vérifier l'information. Si c'est vrai, donc le policier fautif aussi essaierait de sanctionner.
La décision du port obligatoire des casques ne peut détourner l'attention des agents de la police nationale dans la lutte contre la secte Boko Haram, estime cette catégorie des usagers de la route.
Cette décision vaut mieux de retirer. Ils disent encore que le casque qui amène aussi à l'autre le Boko Haram.
Il y a des contrôles de sécurité de Boko Haram sont là. Ils sont en train de nous tuer. Hein? Maintenant, là, nous on est pas en sécurité ici au Tchad.
André Kodmanjingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Et nous partons maintenant au Sénégal. Plus de 100 000 enfants traînent dans les rues de Dakar, qu'ils soient mendiants ou simplement abandonnés par leurs parents. Il existe dans la capitale des centres d'accueil comme ceux mis en place par l'État. Malgré tout, le mal persiste. Reportage de notre correspondante Sogna Nata Ndiaye.
Il y a une équipe qui est sur place qui va recueillir l'enfant si toutefois l'enfant a fugué ou l'enfant a été maltraité jusqu'à fuir de sa maison ou si l'enfant s'est perdu ou si l'enfant est victime de violences sexuelles ou corporelles. Il est pris en charge jusqu'à ce que l'enfant se rassure.
Est devenu presque normal. Maïmouna Baldé demande aux parents d'être plus responsables.
C'est vraiment désolant de voir des enfants qui sont dans la rue, des fois des enfants qui vendent sous l'autorisation de leurs parents. L'enfant, sa place n'est pas dans la rue, sa place est auprès de ses parents.
Des milliers d'autres enfants n'ont pas la chance des pensionnaires du centre Guindy. Ils sont quelquefois confiés à des personnes pour l'apprentissage du Coran. Ces enfants, on les appelle des talibés. Dans cette école coranique de la Médina, en quartier de Dakar, ça apprend en solo. Ou en groupe. Le tout sous la surveillance du maître, cravache à la main. Après les cours, ces enfants mendient dans les rues, exposés à toutes sortes de dangers. Un a été retrouvé mort, égorgé dans la ville de Thiès dernièrement. Et dans la banlieue dakaroise, un maître a battu à mort un jeune élève de 12 ans le mois passé. Malgré tous les sévices que subissent ces enfants de la rue, l'État du Sénégal a du mal à résoudre le problème. La loi est incomplète quand il s'agit de protéger cette couche vulnérable. C'est l'avis de Moustapha Sey, directeur des droits humains au ministère de la Justice.
Le délaissement d'enfants est puni par la loi, l'abandon de l'enfant également. Mais quand un parent confie son enfant à notre marabout, nous sommes dans le cadre d'un confiance qui n'est malheureusement pas réglementé par la loi.
Selon les derniers chiffres publiés par l'UNICEF, il existe plus de 100 000 enfants talibés rien qu'à Dakar. Des enfants âgés de 2 à 17 ans. Au Sénégal, le fait d'inciter un enfant à la mendicité est passible d'une peine allant de 3 mois à 5 ans de prison et une amende comprise entre 500 000 francs et 2 millions de francs CFA, soit plus de 4 000 dollars. Mais rien n'est fait, le phénomène demeure toujours. Sorna Natambaï, Dakar, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
À la mise en onde ce soir, Lionel Gahima, présentation Idrissa Seruya et Morgane Guériec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.